Et c'est reparti pour les Midis de Culture. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Angelin Preljocage. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Nous commémorons les 100 ans de la naissance du psychiatre et militant anticolonialiste Frantz Fanon. Né en Martinique, il embrassera la cause de l'indépendance algérienne. Il cherchera notamment à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation, à la fois sur le colon et sur le colonisé. Fanon publie sa première œuvre majeure en 1952. Peau noire, masque blanc, et son dernier livre, Les damnés de la terre, qui sort en 1961, préfacé par Jean-Paul Sartre, a servi et sert encore de référence à des mouvements de libération anticoloniaux et d'autodétermination. Un biopic signé Jean-Claude Barny en salle actuellement retrace la vie de Fanon et c'est notre dossier du Point Culture du jour. Jean-Claude Barny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, votre film Fanon est en salle depuis quelques jours. Alors pourquoi avoir voulu consacrer un biopic à Frantz Fanon ? Est-ce que vous aviez l'impression que la pensée et la vie de Fanon n'étaient peut-être pas assez assumées en France ?
Alors c'est clair qu'il y avait en premier lieu cette envie de mieux partager au plus grand nombre le parcours de Frantz Fanon et aussi de le compléter, parce que c'est vrai qu'il est très reconnu en tant que anticolonialiste, écrivain de ces deux, enfin ces trois livres, mais il y avait aussi chez moi quelque chose qui, sur lequel il y avait un manque, qui était le fait que Fanon était aussi un médecin psychiatre qui a énormément travaillé sur l'aliénation et aussi la décolonisation des esprits. Et ça, je trouvais que c'était intéressant et pertinent de le mettre en exergue dans un film.
D'ailleurs, vous avez choisi, vous, d'axer votre film sur la période algérienne, période où il exerce justement son métier de psychiatre. Pourquoi ce choix-là en particulier ? Pourquoi commencer à ce moment-là de l'histoire de Fanon ?
Parce que je pense que c'était ça là aussi, l'endroit où on pouvait convoquer beaucoup plus de choses que de faire une sorte de biopic traditionnel sur son époque algérienne au sens propre, mais de le montrer dans un travail, dans le fait qu'il avait aussi réussi à désaligner des esprits. Et c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse, c'est de voir de quelle façon toutes les structures mentales et les psychés, comment on peut aussi les travailler pour permettre à chaque individu de reprendre le contrôle de soi-même face évidemment à toutes les informations médiatiques et puis aussi les contre-vérités. Là aujourd'hui, je pense que l'enjeu de Fanon, c'est la façon dont on peut décoloniser un esprit.
La pensée de Fanon, vous êtes en train d'essayer de le dire, mais elle n'est pas si simple à expliquer. Alors évidemment, c'est un grand penseur anticolonialiste, mais ce n'est pas que ça, ou en tout cas, il y a des ramifications de sa pensée dans plein de domaines. Est-ce que cinématographiquement, c'était un sujet difficile à filmer ?
Alors, c'était un sujet difficile à filmer, mais c'est aussi un défi à réaliser. Parce que je pense qu'en tant que tout cinéaste, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir un peu tout ce qui peut se faire dans la filmographie, et puis travailler autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les malades d'un asile, était pour moi aussi de rendre compte comment le cinéma peut venir à l'aide à un projet tel que celui-ci. Et on a beaucoup travaillé pour trouver les images, le graphisme, le discours, les éléments qui s'articulent autour de Fanon pour en faire, j'espère, un film très visuel.
Comment vous pourriez expliquer en fait la grande pensée de Fanon qui irrigue votre film, c'est-à-dire ce rapport entre la psychiatrie et l'anticolonialisme ?
C'est vraiment ça. C'est que pour moi, le film, je le conçois comme un grand moment où je prends le spectateur pendant 2h13 et on lui dit voilà, vous allez être pendant tout ce temps-là en analyse avec Fanon. Vous savez, c'est vraiment le film, il est construit comme cela. C'est que j'avais envie que le spectateur dépose une partie de son cerveau et se laisse guider dans le travail que nous avons pris avec Fanon. C'est vraiment sa parole qui rentre dans la psyché, sa parole qui organiquement vous travaille au ventre, les éléments du film qui vous font réfléchir, et à la fois vous ressortez complètement troublé. C'est un grand moment, je ne vais pas dire inoptique, mais il y a un peu de cela.
Moi j'ai été très étonnée d'apprendre que c'était le premier biopic au cinéma sur Frantz Fanon. Est-ce que ça dit quelque chose de notre société selon vous ?
Ça dit aussi beaucoup de notre génération qui sont en Paris. Je pense que si aujourd'hui ma génération s'emparait de ce projet sur Fanon, c'est qu'il était temps et avec beaucoup d'arguments, avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup aussi de lutte, qu'on était assez mûrs pour s'attaquer à Fanon. Et je pense que les autres générations, c'était trop proche. Il n'y avait peut-être pas forcément une urgence. Et là, aujourd'hui, je pense que tout était réuni pour qu'on y aille. Et j'espère qu'on a pris à corps notre mission.
Alors, votre mission, vous l'avez remplie en réalisant ce film. Et pourtant, j'ai été aussi surprise de voir qu'il y a peu, voire pas, de salles d'art et d'essai qui diffusent ce film. Et comment vous comprenez ce choix ?
Bah, je le comprends très aisément. Vous savez, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier et j'ai toujours dit que le premier métier à désaligner, c'était le cinéma et la télé. C'est quand même le premier organe, sincèrement, qui nous a vraiment mis dans une matrix de caricature, de discrimination. Enfin, c'est vraiment, ils ont été le premier organe à vraiment minimiser les individus et puis à montrer comment on pouvait, en tout cas, accepter ce genre de discrimination. Sincèrement, si Fanon aujourd'hui a encore ce côté réticent chez les exploitants, c'est parce qu'il y a encore des gens qui pensent que bah il y a certaines personnes qui ne doivent pas avoir accès à un genre de cinéma. C'est très sélectif malheureusement.
Alors là, alors que nous parlons, vous êtes aux Antilles, vous avez présenté il y a quelques jours ce film en Martinique. France Fanon vient de Martinique. Quelles ont été les réactions là-bas?
Bah, c'est exactement ça. Il y a la loi du terrain, où il y a les retours sont dithyrambiques, et ces spectateurs, et avec ça, on ne peut pas tricher, parce que ce sont plusieurs individus, peu importe les origines, leur communauté, et puis leur statut social, qui font qu'un film est reconnu pas. C'est la loi du spectateur, et je pense qu'il est, on ne peut pas le remettre en question. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, l'industrie qui parfois fait la résistance, fait des choix qui sont anachroniques. Et je peux vous dire aujourd'hui que si Fanon remplit les salles, c'est parce qu'évidemment, il y a une demande qui est très forte.
Alors, on le disait, peut-être qu'en France hexagonale, la pensée de Fanon a été un peu oubliée ou est simplement méconnue. Est-ce qu'aux Antilles, elle vous paraît plus vivace et plus proche, cette pensée-là?
Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que la pensée de Fanon, elle est beaucoup plus reconnue, travaillée de par le monde. Ça, c'est un fait. Et il y a vraiment un appétit chez la jeunesse. Et ça, c'est vraiment une réalité. Ensuite, elle ne remonte pas jusqu'à l'état médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fanon est entièrement discuté sur le terrain, mais évidemment, il ne fait pas les choux gras des journaux, des médias et pour cause. Mais quand aujourd'hui, je regarde le nombre de messages, d'intérêts, je me dis, mais où étaient tous ces gens-là? Et parce qu'il n'y avait pas d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Et le fait d'avoir fait ce film-là, ben voilà, il y a une sorte de focalisation, d'intérêt qui fait que ça remonte à un niveau audible.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude Barny. Je vous laisse à votre présentation aux Antilles. On entend les oiseaux derrière vous. Hein, je crois que...
Voilà, c'est un partage. C'est un partage de là où je suis.
Merci beaucoup.
Merci énormément.
Dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'exposition universelle à Osaka, au Japon, vient d'ouvrir ses portes.
Oui, depuis 1851, les expositions universelles rassemblent le monde entier tous les 4 ans pour faire la démonstration de leur culture, de leur technologie et de leur architecture. Cette année, 160 pays et régions présentent leur pavillon sur l'île artificielle de Yumeshima au large d'Osaka, ville portuaire du Japon. Le thème de cette édition, la société du futur. Les exposants se sont penchés particulièrement sur l'intelligence artificielle et le domaine spatial. Démonstration de drones, cœur cultivé à base de cellules souches et même une météorite martienne vont être présentées au public. Je sais, Marie, vous avez très envie d'aller voir ça. Et la ville espère accueillir 28 millions de visiteurs d'ici la fin de l'exposition, le 13 octobre prochain.
C'est un quatuor qui va prendre la tête de la Cité internationale de la danse à Montpellier.
Oui, une équipe paritaire, deux hommes, deux femmes, va prendre les rênes de la nouvelle association. À sa tête, Dominique Hervieux, chorégraphe et programmatrice, ancienne directrice des Olympiades culturelles pour les JO 2024 de Paris et ancienne directrice de la Maison de la danse de Lyon. À ses côtés, Ophé Schechter et Yann Gallois, chorégraphe reconnu, et Pierre Martinez, ancien administrateur de la Maison de la danse de Lyon ou encore du Centre chorégraphique national de Roubaix. Ils vont devoir accompagner la fusion entre le festival Montpellier Danse et le Centre chorégraphique national de Montpellier, et la formation des danseurs fera partie des priorités de cette nouvelle direction.
Des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le risque d'une répression accrue des free parties.
À Marseille, Paris, Nantes, Bordeaux ou encore Rouen, 20 000 personnes se sont rassemblées pour défendre leur droit à danser librement. Une proposition de loi déposée en mars par la députée Horizon Laetitia Saint-Paul prévoit en effet d'augmenter l'amende de 1 500 à 5 000 euros pour les participations aux free parties, ces grandes fêtes gratuites et non déclarées. La proposition envisage aussi une peine de prison pouvant s'élever jusqu'à 6 mois d'enfermement pour ceux qui participent à leur organisation.
Et pour finir, Marie, un immeuble de Rouen pourrait être déclassé.
Oui, même si la procédure est rare, l'édifice de 1969 risque de perdre son inscription au monument historique afin que sa démolition soit possible. L'adjointe au maire de Rouen, chargée de l'urbanisme, Fatima El-Khili, considère en effet que le bâtiment est, je cite, « une verrue qui constitue un danger permanent ». Deux immeubles seulement subsistent parmi les 25 édifiés il y a un demi-siècle. Propices aux incendies, leur structure en acier et leur cloison légère devaient en faire un modèle de construction facile à reproduire. produire dans la période des 30 Glorieuses. Affaire à suivre donc.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.